Une heure en France. Denis Farrot, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Et à 13h20, on passe un moment autour de l'histoire du monde dans Une heure en France. Attention Denis, ouvrez grand les oreilles.
Je vous écoute.
Je mesure près de 200 km de long. Je relie la Méditerranée à la mer Rouge depuis 1869. Et mon histoire est liée à la France. Je suis...
Le canal de Suez.
Bonne réponse.
L'Institut du monde arabe de Paris présente une expo sur l'épopée du canal de Suez, des pharaons au XXIe siècle, avec une place faite évidemment à Ferdinand de Lesseps, le promoteur du canal.
À Paris ou sur francebleu.fr, vous pouvez revivre cette épopée hors du commun. Nous sommes maintenant avec le commissaire général de l'exposition. Bonjour Claude Mollard.
Bonjour.
Le canal a 150 ans, à quelque chose près. Pourquoi est-ce que vous évoquez les pharaons, les rois de l'Égypte antique il y a plusieurs millénaires?
Parce que le canal en réalité a 3850 ans. Mais ça, les gens ne le savent pas.
Nous non plus.
Il faut nous raconter.
On ne parle que du canal du 19e siècle, mais Sésostris III, figurez-vous, le pharaon qui a créé ce canal, a réuni, dans un premier temps, la mer Rouge au Nil. Et les bateaux arrivaient sur le Nil, et du Nil, ils arrivaient sur la mer Méditerranée. Et pendant près de 3500 ans, ça fonctionnait comme ça.
Et comment ils ont fait à ce moment-là sans les machines? Il y a beaucoup d'hommes qui ont dû...
Ah, ben, c'était des bateaux, je dirais, à taille humaine. Mm-hmm. Ils faisaient 10 mètres, 15 mètres de long. Ils transportaient une vingtaine de tonnes. Mais c'était très précieux à l'époque parce que c'était souvent des marchandises de l'or, des épices, des marchandises précieuses.
Alors,
et donc,
oui.
On voyageait sur ces petits bateaux, y compris d'ailleurs sur la mer Méditerranée.
Alors, le canal de Suez tel qu'on le connaît fait donc l'objet de cette expo à l'Institut du Monde Arabe. On est accueilli ainsi à l'Institut. Écoutez. Et là, Claude Mollard, il faut encore nous expliquer le lien entre les trompettes de l'Opéra de Verdi et le canal de Suez, inauguré en novembre 1869.
Eh bien, le responsable de tout ça s'appelle Ismaël Pacha, qui est le vice-roi d'Égypte et qui convoque la planète entière, ses têtes couronnées, ses banquiers, ses écrivains, ses artistes, pour l'inauguration du canal à Port Saïd.
Et donc,
en même temps, il passe commande à Verdi d'un opéra, Aïda, dont vous venez d'entendre les trompettes. Et on entre dans l'exposition comme si on était soi-même assistant à l'inauguration. Et donc on voit les bateaux qui arrivent, on voit celui de l'impératrice Eugénie, la femme, l'épouse de Napoléon III, qui ne peut pas venir. On voit toutes sortes de grands de ce monde, l'empereur François-Joseph d'Autriche, on voit même Abdelkader, l'ancien roi d'Algérie. Tout ce monde se presse autour de, évidemment, Ismaël Pacha et Ferdinand de Lesseps.
Et c'est comme si on les avait devant nous, là. Merci Claude Mollard. Ferdinand de Lesseps, Denis en parlait tout à l'heure, quel a été son rôle exact dans la construction du canal de Suez?
Ben écoutez, c'est un homme génial, il faut avoir le courage de le dire. Lorsqu'il y a des Français géniaux, je crois qu'il faut le reconnaître. C'est un diplomate, et puis il a rencontré Saïd Pacha, qui était le futur vice-roi d'Égypte, et il lui a appris à monter à cheval à la française. Ils sont devenus amis, et lorsque Saïd Pacha est arrivé sur le trône d'Égypte, il a fait appel à Ferdinand, qui lui avait parlé de son projet de canal, et il lui a dit, ben, écoute Ferdinand, j'aimerais que tu me fasses le canal. Et Ferdinand, il n'avait pas d'argent, donc il a monté une société, la Compagnie de Suez. Il a fait appel aux épargnants français, 20 000 épargnants français, qui ont financé le canal, avec également la participation des Égyptiens, et notamment de Saïd Pacha. Et ceci contre les Anglais, qui étaient hostiles au canal. Donc c'était une petite empoignade franco-anglaise.
L'histoire tient
vainqueur, puisque finalement, les Anglais ont dû se rendre à l'évidence. Le canal, en 1869, fonctionne à voile et à vapeur.
L'histoire est toujours une suite de coïncidences. Hein. Si Saïd Pacha n'avait pas eu de cheval, s'il n'avait pas fait de cheval avec Ferdinand de Lesseps, il n'y aurait peut-être
et
pas de
voilà.
canal. On en profite.
Et en plus, si le diplomate de Ferdinand de Lesseps n'avait pas su monter à cheval,
eh oui.
Le canal non plus.
On parlait de souvenirs d'école tout à l'heure. On va faire une toute petite révision de géographie. Le canal de Suez, il part d'où pour arriver où exactement, situé un peu nous sur la carte.
D'où vous venez.
Quand on regarde la carte.
Non, mais alors si vous venez de Toulon, soyons concrets, ou de Marseille, vous arrivez à Port Saïd, à l'entrée du canal, puis vous le franchissez et vous arrivez plus tard à Ismaïlia, au milieu du canal, au bout de 100 km environ, et si vous continuez en direction du sud, vous arrivez à Suez, sur la mer Rouge, et là vous débouchez sur la mer Rouge. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'impératrice Eugénie a traversé le canal en 1869.
Et on visualise ainsi, c'est plus clair. Merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu, Claude Mollard, de l'exposition magnifique qui se déroule à l'Institut du Monde Arabe en ce moment à Paris.
Depuis quelques jours et jusqu'au 5 août prochain.
Vous avez un petit peu de temps pour aller la voir. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
France Bleu, une heure. En France.
Et à cette heure-ci, ça s'impose un moment gastronomie dans une heure en France. Après la France, l'Égypte, voilà la France et le Japon, avec une petite friandise à la clé, le dorayaki.
Comment vous dites le quoi ?
Je le prononce moins bien que vous, le dorayaki. C'est une pâtisserie japonaise composée en fait d'une pâte de haricots rouges entre deux petites crêpes genre pancake, genre blinis. Et c'est très courant au Japon.
Aussi courant que le croissant ou le pain au chocolat en France ?
Je sais pas, on va demander, hein, parce qu'on est avec un pâtissier français passionné par le Japon et qui s'est associé avec un Japonais pour ouvrir dans le deuxième arrondissement de Paris la pâtisserie Tomo. Bonjour Romain Gaïa.
Bonjour.
Alors le dorayaki, c'est le croissant français. Est-ce qu'on le mange au petit déjeuner ?
On le mange un petit peu toute la journée, effectivement. C'est un peu plus proche de la madeleine, en fait, de la madeleine de Proust, un petit peu des Japonais, parce qu'ils le mangent surtout quand ils sont enfants, et après tout au long de leur vie, un petit peu pour se rappeler leur enfance, en fait. Et on le mange principalement avec le thé, donc plutôt l'après-midi, mais c'est vrai qu'on peut aussi le manger le matin. Voilà, on le trouve un peu partout. Il sert un peu à tout. Ce serait un peu plus comme un éclair, d'une certaine façon. On peut le trouver dans des restos gastro, et on peut aussi le trouver dans une pâtisserie traditionnelle, des choses comme ça.
Mais est-ce qu'on sait qui a inventé cette fameuse pâtisserie ?
Non, malheureusement, il y a des légendes. Par contre, il y a des vraies légendes à propos du nom, en fait, parce que yaki, ça signifie grillé. Comme vous avez teriyaki, par exemple, c'est des petites brochettes grillées que vous trouvez parfois dans les restaurants japonais.
C'est vrai.
Donc yaki, c'est juste le grillé, effectivement. Et le dora, en fait, ça signifie gong, parce que c'est un petit peu la forme d'un gong et la couleur. Et donc voilà, c'est un peu l'origine un peu comme un gong grillé, mais il y a plein de légendes à propos de l'origine. C'est un gâteau qui est très ancien.
Et le secret de la fabrication, c'est évidemment la pâte de haricots rouges qu'il faut faire cuire très longtemps. Romain, dans le livre et dans le film Les délices de Tokyo, on ne se contente pas de faire cuire les haricots, on les écoute aussi. Est-ce que c'est vrai ou c'est pour le folklore, ça?
Non, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que le confit de haricots rouges, hein, ce qu'on appelle effectivement c'est azuki, c'est un peu, c'est vraiment l'âme de la pâtisserie traditionnelle japonaise. C'est un peu comme leur crème pâtissière. Et du coup, comme on a ici les concours de baguettes, alors c'est quelque chose d'assez simple finalement, ou les concours de croissants, et au Japon c'est pareil quoi. Chaque maison se bat pour avoir le meilleur haricot rouge frais maison. Et c'est vrai que c'est difficile à faire. Donc c'est très long. Nous, ça nous prend chez Tomo, ça nous prend à peu près 2 jours. Pour le réaliser, entre le moment où on a les petits haricots frais et la pâte vraiment finie, consommable pour les dorayaki. Donc c'est vrai que c'est long et que ça demande un petit peu d'expérience. Donc nous, on a une recette traditionnelle, de notre pâtissier japonais qui vient de la région de Nagoya. Donc voilà, quelque chose de vraiment à l'ancienne.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre pâtisserie, chez Tomo, vous proposez une réinterprétation à la française.
Oui, on fait ça aussi, effectivement, parce que c'est vrai que les haricots rouges confits, même si c'est quand même assez proche de la crème de marron ou du marron confit d'une certaine façon, c'est vrai que il y a toujours des Français qui sont quand même un petit peu réticents au début, donc le temps de les adapter, dirons-nous, le temps de les adapter, on a effectivement des réinterprétations, c'est toujours sur la base de dorayaki, le biscuit en lui-même, qui est donc à base de miel principalement et du mirin, qui est un sirop de riz japonais. Et par contre, on le réinterprète avec voilà des crèmes un peu plus françaises. Donc on a citron yuzu qui va être un agrume japonais, un peu entre la mandarine et le citron. On a un Paris Kyoto qui va être un peu comme un Paris Brest, mais avec un petit produit japonais à l'intérieur aussi. Voilà des versions plus à la française qui seront du coup sans haricots rouges.
Romain Gaïa. Romain Gaïa, comment on devient pâtissier japonais quand on est français ?
Alors c'est très compliqué. Moi j'ai eu la chance de pouvoir m'y intéresser parce que j'ai appris le japonais en fait avant la pâtisserie. Et c'est vrai que la barrière de la langue fait qu'il y a très très peu d'occidentaux qui peuvent s'intégrer dans des équipes japonaises ou qui peuvent apprendre, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Japon. Faut vraiment maîtriser la langue. C'est vrai que les Japonais parlent peu les langues étrangères, même s'ils écrivent bien l'anglais, mais souvent à l'oral c'est catastrophique. Et du coup, voilà. Non mais faut le dire. Et donc si vous parlez pas un minimum japonais, c'est très difficile. Moi c'est ce qui m'a ouvert les portes effectivement de pas mal d'endroits en France et au Japon, effectivement pour découvrir ça. Ouais.
Est-ce que vous êtes un peu tendu quand les touristes japonais viennent déguster des douceurs chez vous?
Toujours. Dès qu'on a des Japonais qui rentrent, effectivement, on est toujours plus attentif d'une certaine façon, enfin plus tendu, c'est vrai. Déjà parce qu'ils sont très très exigeants, plus que les Français, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un service vraiment toujours, toujours au cordeau et des produits évidemment de très très bonne qualité. Bon, néanmoins, on n'est pas stressé quand même plus que ça, parce qu'on sait que voilà, on a quand même des recettes traditionnelles qui leur rappellent souvent le pays, ce qui fait qu'on a beaucoup d'expatriés en fait, japonais qui viennent chez nous pour retrouver le goût de là-bas en fait, tout simplement.
Vous êtes installé dans le deuxième arrondissement à Paris.
Dans le deuxième.
On se dit au revoir et bonne journée en japonais, Romain.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
Merci beaucoup.
À bientôt. Merci Romain. Bonne journée. Au revoir.
Une heure en France. Denis Faro. Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Voilà maintenant de l'insolite avec des passionnés dans une heure en France. Décidément, on ne sort pas du Japon. Après les pâtisseries, les dorayaki.
Dorayaki.
Pourquoi je l'ai mal dit?
Non, vous ne savez pas le dire.
En tout cas, après ces pâtisseries, on a décidé de vous parler d'une pratique ancestrale du Japon, mais qui a de plus en plus d'adeptes en France. Ça s'appelle la sylvothérapie.
Il s'agit d'enlacer un arbre, entrer en communion avec un arbre pour puiser de l'énergie et se ressourcer.
C'est l'auteur du pouvoir bienfaisant des arbres, sorti aux éditions Jouvence, qui nous parle de cette technique anti-stress et anti-fatigue. Bonjour Jean-Marie Desfossés.
Bonjour à vous Frédéric et Denis.
Jean-Marie, concrètement, comment ça se passe quand on vous suit pour une séance en forêt? On commence par respirer, par choisir son arbre?
Oui, on commence par respirer, oui. J'invite les personnes à faire des mouvements de respiration un peu particuliers, tout à fait faciles et aisées, mais qui vont libérer les tensions du corps, les tensions respiratoires, les tensions nerveuses. Puis on va marcher. On va marcher en respirant d'une façon un peu particulière, aussi calé sur les pas, pour encore profiter de l'effet respirant de la forêt. La forêt nous invite à respirer, mais quand on y va en respirant encore davantage, ça amplifie la perméabilité. On va pas simplement entrer en forêt, on va laisser la forêt entrer en soi. Et puis après, il y a l'immersion sensorielle, où on essaye de vraiment que la forêt rentre en nous par les yeux, les oreilles, l'odorat et le toucher, bien sûr.
Et comment on choisit son arbre? N'importe quel arbre?
Ah, écoutez, c'est un choix. Donc, moi, j'insiste sur le côté coup de cœur. Il faut y aller à l'instinct. On n'embrasse pas un inconnu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle. J'aime bien dire qu'il y a un effet miroir. Si vous choisissez un arbre colossal, très au tronc puissant, c'est peut-être pas la même chose que si vous reprenez un petit arbre qui est un petit peu chétif, avec des beaucoup de branches qui semblent choisir leur chemin. Mais c'est toujours très beau et très bienveillant. Donc, le coup de cœur.
Oui, Frédéric, elle choisirait un bouleau tout fin comme elle.
Oh, vous êtes gentil, Denis. Ah. Jean-Marie Desfossés, on s'intéresse de plus en plus aux arbres et on se rend bien compte qu'ils ont beaucoup de points communs avec nous, finalement.
Écoutez, c'est une façon de voir. Moi, j'insiste sur le fait qu'ils ont beaucoup de choses différentes de nous.
Ah, d'accord. Contraire, en fait.
non, mais c'est pas vraiment un pied né, c'est intéressant. Ce qui me fascine, c'est que c'est vrai qu'on peut faire des rapprochements, mais en même temps, ce sont des êtres qui sont fondamentalement différents dans leur façon de fonctionner, leur façon de vivre, leur façon de laisser le temps s'écouler. Et malgré ça, il y a un élan qui existe depuis toujours d'empathie très forte. Nous aimons les arbres. Vous allez à une tablée, vous dites j'aime les arbres, vous ne passez pas pour un farfelu. Si vous dites que vous captez l'énergie, etc., c'est différent. Moi, j'amène pas les gens dans du captage d'énergie. Je dis qu'on peut y retrouver de l'énergie, de la vitalité. Et puis, voilà. Mais c'est lié au fait, le moteur doit être l'envie d'aller vers les arbres, la sympathie qui suscite en nous. Et c'est vrai qu'ensuite, on peut faire des parallèles entre le fait qu'ils vivent connectés les uns avec les autres, ils sont enracinés ou ils cherchent à l'être, il est nécessaire qu'ils le soient. Ils cherchent la lumière, la clarté, et ça donne des... Je ne sais pas s'ils nous ressemblent, mais ils ressemblent à des héros, ils ressemblent à des archétypes, et ils survivent à travers le temps.
Vous parlez bien des arbres, en tout cas. On est, Jean-Marie Desfossés, dans, même si on vous suit bien, dans le psychologique. Est-ce qu'on a prouvé, scientifiquement, le bien-arbre, le bien-être
c'est bien dit,
que peut apporter un arbre contre son corps?
Oui, alors, ce qui est prouvé, c'est les effets de la marche en forêt. Voilà, ça c'est... Ce qui est prouvé également, c'est les effets de la simple vue d'un paysage forestier et l'immersion dans un paysage forestier. Ce qui est prouvé également, c'est l'effet de l'odeur de sous-bois. Vous voyez, donc il y a différents paramètres qui, de façon scientifique, rigoureuse, reproductible, ont été testés, et à chaque fois, pour les paramètres que j'ai cités, on observe scientifiquement une réduction du stress mesuré de façon objective. C'est pas simplement demander à la personne, tiens, vous sentez comment, mais on va mesurer des traceurs, des marqueurs de stress dans le sang, dans l'urine, etc. Donc il y a une démonstration, il y a une base scientifique pour ceux qui voudraient douter, mais quelque part, c'est presque enfoncer les portes ouvertes, parce que chacun sait qu'une balade d'une heure en forêt, ça fait du bien. On le sent.
Qu'on en lasse ou pas un arbre, on se sent bien.
Oui, ça donne envie d'essayer. Merci beaucoup de nous avoir parlé brièvement de la sylvothérapie, Jean-Marie Desfossés. Je suis sûre que ça a interpellé beaucoup de ceux qui nous écoutent.
Eh bien, je souhaite un beau printemps à chaque auditeur et de bonnes rencontres avec les arbres. Au revoir, merci.
Le message est passé. Merci Jean-Marie Desfossés. À bientôt, au revoir.